La revue de presse, bonjour Jérémy Marillier.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment.
Pour toutes celles et ceux qui rêvent d'une vie meilleure, les portes d'entrée d'un pays peuvent être inattendues, mais toujours difficiles à ouvrir, toujours. Comme pour ces hommes partis du Congo, des rêves d'Europe plein la tête, et qui se demandent bien où ils débarquent quand leurs passeurs leur disent qu'ils arrivent à Mayotte. Libération nous emmène ce matin dans l'océan Indien, à Mayotte. Là-bas, l'immigration, on la connaissait déjà, venant des Comores, mais depuis quelques mois, le département français voit se développer une autre immigration très importante, cette fois d'Afrique continentale. Libé est allé à la rencontre de ces hommes, principalement venus de la région des Grands Lacs. On découvre l'histoire par exemple de Gauthier. Il a 23 ans, Gauthier, torturé dans sa RDC natale, plus de 20 heures dans un petit bateau pour arriver à Mayotte depuis Madagascar. Gauthier et une centaine d'autres demandeurs d'asile vivent dans un immeuble délabré de Mamoudzou. Pas d'eau potable, sentiment d'abandon général. L'attente longue, interminable, le suicide pour l'un d'entre eux lorsque sa demande d'asile est refusée par la France. Les autorités sur place sont débordées. L'enfer mahorais, c'est comme ça que Mayotte est décrit dans Libération par celles et ceux que l'on appelle tout simplement sur place les Africains. Les portes de l'Europe qui se ferment en Espagne. El País se fait l'écho ce matin de cette fierté du gouvernement espagnol. Depuis le début de l'année, en effet, le nombre d'entrées de migrants en situation irrégulière a baissé de près de 40% par rapport à l'an dernier. Tout ça grâce à une collaboration approfondie entre l'Espagne et le Maroc. Les forces de sécurité marocaines, ajoute El País, ont intensifié leurs raids et les déportations de migrants au sud du pays. Maintenant, l'Espagne espère que cette baisse du nombre d'entrées de migrants sur son territoire va atteindre la barre symbolique des 50%. Le Financial Times nous emmène, lui, en Amérique centrale, à Quilco, une petite commune du Guatemala. Là-bas, on ne roule pas sur l'or, c'est vrai, nous dit le quotidien britannique. Mais grâce à l'argent envoyé depuis les États-Unis par des expatriés, certaines familles peuvent se construire de belles maisons avec des terrasses, de grands jardins qui font leur fierté. Mais tout ça, c'était avant la nouvelle politique de Donald Trump. Le président américain s'attaque aux envois de fonds vers les pays latinos pour mettre la pression sur ces États et pour limiter l'immigration. Dans le Financial Times, Carlos Mauricio, chauffeur de taxi, resté au Guatemala, il avoue que sa fille aux USA n'ose plus aller travailler par peur de se faire arrêter, renvoyer au pays. Quant au fils de Carlos, lui aussi expatrié, il travaille toujours chez l'oncle Sam, mais aujourd'hui, il ne peut lui envoyer que 100 dollars par mois, alors que c'était plutôt 250 auparavant. Des portes pas tout à fait fermées, mais juste entrouvertes, ça suffit pour affecter l'économie de tout un pays.
Donald Trump, toujours d'après le Wall Street Journal, le président américain aurait des vues sur le Groenland.
Et les gars, vous pensez quoi de ça, racheter le Groenland au Danemark? D'après le quotidien, voilà ce qu'aurait dit Donald Trump lors d'un dîner, après qu'on lui a rapporté que les Danois chercheraient un soutien financier pour gérer ce territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors il n'y a pas eu de demande officielle formulée au Danemark, mais le président américain se serait renseigné auprès de plusieurs de ses conseillers. Acheter le Groenland peut-être, mais les médias américains se demandent bien pourquoi. On se souvient que l'an dernier, Donald Trump avait par exemple souligné le potentiel de développement touristique de la Corée du Nord, avec, disait-il, de super plages qui feraient des super apparts en Corée du Nord.
Et les touristes, justement, ne feraient-ils pas mieux de rester chez eux en ce mois d'août?
Des voitures de location brûlées par des militants d'extrême gauche au Baléares, la ville de Rome qui interdit de s'asseoir dans ses plus beaux escaliers, fini les cartes touristiques aussi dans le centre d'Amsterdam. Les touristes sont-ils de plus en plus mal aimés? L'antitourisme n'a-t-il jamais été aussi fort que cet été? Question posée par Le Progrès. Alors difficile d'y répondre clairement, tant la manne financière générée par le tourisme est gigantesque. Exemple à Marseille, où nous emmène ce matin l'Humanité. Croisière, pollution, Airbnb, spéculation immobilière. Marseille, dans les mâchoires du tourisme de masse, titre l'UMA. Une habitante du quartier d'Andoum raconte par exemple son petit coin de paradis marseillais, devenu pour elle un enfer. Des capotes, des excréments, que va-t-elle trouver en sortant de chez elle le matin? Telle est désormais son interrogation quotidienne. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas une habitante de Marseille qui pousse ce cri de cœur, non. C'est une touriste chinoise bloquée à l'aéroport de Hong Kong, valise sur la tête. Elle enjambe cette femme, les manifestants, pour essayer de prendre son avion. Le Figaro nous raconte la scène et ajoute que depuis le début de la crise, le nombre de touristes a baissé de 74% à Hong Kong, accentuant là-bas les risques de récession.
Et quand le tourisme est au point mort, mais cette fois à cause du climat.
Nous sommes dans le Loiret, sur un canal, le canal de Briare, l'un des plus vieux de France. À partir de lundi, il sera tout simplement fermé à la navigation. Il est beau, mais on ne pourra pas naviguer dessus. La faute à la sécheresse, nous dit la République du Centre. Pas de pluie, les réservoirs sont à sec et les bateaux doivent se trouver d'autres ports de plaisance dans d'autres régions. Les commerçants se demandent bien comment ils vont faire. Un canal qui fait grise mine dans le Loiret et un plaisancier tout sourire, lui, en faute photo dans la Voix du Nord. Le quotidien se demande dans un article si vivre sur une péniche dans le Nord, ben ne s'apparenterait pas en ce moment à la Dolce Vita. Rien que ça, la Voix du Nord qui, paradoxe, fait sa une sur la sécheresse qui menace de plus en plus la région. Sommes-nous en train de marcher sur la tête, sans doute pas autant que dans cette commune à une vingtaine de kilomètres au nord de Lyon. Pour endiguer le passage de nombreux véhicules au niveau d'un rond-point, la municipalité de Chazé-d'Azergues vient de remplacer dans ce rond-point 3 de 4 céder le passage par 3 stops. Le Progrès nous raconte que c'est l'incompréhension la plus totale, des habitants totalement démunis. Moi je comprends pas, confie une habitante, si on arrive à 3 voitures en même temps, on fait comment? La tactique pour elle, c'est carrément de ne pas s'arrêter au stop, et advienne que pourra. La mairie de Chazé-d'Azergues répond simplement que le code de la route doit s'appliquer dans ce giratoire qui sème le trouble, comme le dit le Progrès. Et puis des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, on y revient avec l'histoire d'un homme qui normalement va pour la toute première fois porter demain le maillot de l'équipe de France de rugby. Il s'appelle Ali Verretti Raka et l'équipe nous raconte ce matin l'histoire singulière de ce rugbyman né il y a 24 ans à plus de 16 000 km de la France aux Fidji. Raka est arrivé en France en 2015 pour jouer avec Clermont et depuis le rêve de ce Fidjien c'est de jouer pour l'équipe de France. Raka entame alors très vite toutes les démarches avec des difficultés pour récupérer certains papiers aux Fidji. Il croit son heure venue mais non, voilà, il se blesse au genou gravement fin 2017. Malgré des attaques, certaines à caractère raciste, Raka n'abandonne pas la nationalité française. Il va l'obtenir en 2018, après 3 examens, et non 2. L'administration s'était trompée. Dans un examen, il y en a refait passer un. Son heure arrive, et puis non. Encore une fois, début 2019, Raka se blesse, cette fois au poignet. Remis à temps, il devrait enfin pouvoir chanter la Marseillaise demain soir face à l'Écosse, match de préparation avant le Mondial. Ali Verretti Raka, parcours singulier d'un homme attendu d'après l'équipe comme le facteur X des Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde de rugby.
On l'espère pour eux. Merci beaucoup, Jérémy. Marie-Lise, c'était la revue de presse.